Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Ils ont défilé dans tout le pays pour faire la nouvelle révolution. La nouvelle révolution algérienne, reportage dans un instant. En Irak, une révolution de palais ne suffira pas. La jeunesse porte un mouvement dont l'intensité ne faiblit pas. Et l'exécutif ne sait que faire. Sur place, l'anthropologue Houcham Daoud, invité de ce journal. Également au sommaire, un tanker battant pavillon grec, principal suspect de la marée noire, qui a ravagé 2000 km de côte brésilienne. Puis en France, le gouvernement qui décide de ne pas poursuivre en justice les cheminots qui ont exercé leur droit de retrait après un accident de TER dans les Ardennes. Précision de Diane Berger. Alger envahi comme envisagé dès hier. Des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens ont répondu à l'appel du Irak à la faveur d'une 37e mobilisation de grande ampleur. Et il y avait cet après-midi dans les rues de la capitale comme dans celles des principales villes algériennes bien plus de monde que d'habitude il y a 65 ans, jour pour jour. Le Front de Libération Nationale appelait le peuple à la révolution algérienne ainsi qu'à la lutte armée contre la puissance colonisatrice, la France. Alger, le reportage de Laïla Berato.
Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale. La symbolique du 1er novembre a accentué la mobilisation. Ouria, 63 ans, est venue en famille.
C'est le 1er novembre de la libération, deuxième libération. On va libérer, c'est pas la patrie, c'est nos parents qui ont libéré la patrie, mais nous on va libérer les gens. Il y a des gens qui vont libérer le pays.
Des centaines de personnes portent un masque avec le visage de Lardar Bourrega, un ancien combattant qui est en détention provisoire depuis 4 mois pour atteinte au moral de l'armée. Aziz, 37 ans.
Il a fait partie des gens qui ont commencé le 1er novembre 1954. Et là, il a passé le 5 juillet en prison. Et là, c'est le 1er novembre, il passe le 1er novembre en prison. C'est inacceptable, quoi.
Si les références à la guerre d'indépendance sont partout dans le cortège, le message politique reste le même. Les manifestants demandent le départ des autorités et affirment qu'ils ne voteront pas le 12 décembre prochain. Zaya a 74 ans.
Je suis sortie pour dire qu'on ne votera pas. Ils ne veulent pas qu'on ait notre président. Ils veulent leur président. C'est ça. La mafia est encore là. Personne ne votera. Si Ben Sela et Bédoui s'en vont, le peuple ira voter et le peuple aura les urnes.
Presque une semaine après l'annonce des noms des candidats à l'élection présidentielle, la mobilisation ressemble à celle des semaines qui précédaient la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Une lourde crise économique et une classe politique détestée au Liban, relatif apaisement après 16 jours de manifestations. Les banques ont rouvert ce vendredi. Le peuple irakien ne demande rien d'autre que la chute du régime, donc la démission du gouvernement, honni car corrompu. Deuxième mois de contestation, des centaines de morts, des milliers de blessés, les autorités semble être tétanisé face à une révolte que porte la jeunesse. Hier, le Premier ministre a proposé de démissionner. Le président a lui promis des élections anticipées. Nous sommes, comme convenu, en ligne d'Irak avec l'anthropologue Houcham Daoud. Bonsoir.
Bonsoir.
Houcham Daoud, comment expliquer la montée en puissance et la constance de la mobilisation?
Je crois que pour remonter quelques années en arrière, il y avait toujours des manifestations. Plus ou moins importantes, moins importantes, mais quand même il y avait des contestations. C'était à Bagdad, dans la ville méridionale, surtout Bassora, ailleurs. C'était des contestations d'ordre social, il est vrai avec une base sociale chiite. Mais cette fois-ci, bon, la chose est arrivée à un moment, il fallait une étincelle pour qu'il s'explose, essentiellement parmi des jeunes. Au départ, c'était une génération de 15 à 20 ans, 25 ans. Après, c'était grossi avec le reste de la population. Maintenant, on voit des centaines de milliers de personnes qui se trouvent dans la rue, contestant la corruption, l'incapacité de pouvoir de gérer les affaires. Et puis, le pays, quand même, se trouve en marge. Il n'arrive pas à se soulever avec les moyens qu'il a, la rentrée d'argent. Et l'Irak, il n'arrive pas à se remettre sur le chemin. Donc, c'est un ras-le-bol générationnel, il est vrai, avec un fond social, une contestation profonde. Je crois qu'ils ne quitteront pas la place de manifestations sans avoir un gain concernant le changement de régime, de gouvernement, je dirais de gouvernement plus que régime, et à la fois avec une injustice peut-être un peu plus apte, et surtout changement de système électoral qui est complètement au profit des grands partis politiques corrompus.
Est-ce que, en l'état, si je puis dire, le gouvernement, l'exécutif, peut répondre à la rue et, comme vous le disiez à l'instant, apporter surtout des réponses très efficaces dans l'immédiat?
Non, parce que ce gouvernement, quand même, il manque de moyens de répondre. Il a déjà, il termine l'année avec une trentaine de milliards de dollars de déficit. Le pays est endetté de 100 à 120 milliards de dollars. Le rentrée d'argent suffit à peine à payer l'armée de fonctionnaires qui sont au nombre de 6 à 7 millions avec les retraités. Et donc l'Irak est resté au point de 2003. Pas de reconstruction, pas de reprise économique, l'insécurité qui règne, quelques difficultés au niveau de contact parmi la communauté qui forme et qui façonne le pays. Donc, parce qu'il n'y a pas un changement profond de politique à l'intérieur. Sans parler, bien évidemment, l'Irak importe la crise régionale qui est entre l'Iran, les États-Unis et les pays de Golfe. Donc, c'est un pays de réception, réceptacle de crise et à la fois incapacité de rebondir politiquement, et puis ces jeunes-là qui arrivent en masse sans avoir la possibilité d'avoir un boulot, un travail, un niveau économique qui baisse. Encore une fois, c'est essentiellement ce qui est très important, ça se passe dans les zones chiites. Donc c'est une contestation chiite de pouvoir chiite, c'est une contestation chiite de mainmise de l'Iran dans leur pays, c'est aussi une forme de révolte pour regagner leur dignité. C'est pourquoi le côté symbolique est très important. Si vous regardez les jeunes avec les drapeaux irakiens, ils font même des prières sur les drapeaux. C'est une forme de recréer le récit national avec un plan social nouveau.
Vous diriez, Oussam Daoud, que la rue fait ou plutôt refait de la politique ?
La rue apprend la politique, il fait la politique. Et je me suis promené parmi les manifestants qui sont 10 milliers. Je suis étonné par cette capacité de discuter, dialoguer. Vous savez, ça fait presque 30 ans. Avec toute cette littérature qui est sortie en Irak, dans le monde arabe, dans le monde, l'Irak est fini, l'Irak a disparu, il n'y a pas de récit national, pas de nationalité nationale, etc. Aujourd'hui, on voit ces gens-là qui chantent net pour la plupart, après 2003, après l'invasion, c'est eux qui nous parlent de l'identité irakienne. Donc, vous voyez, chaque fois quand on essaie d'enterrer quelque chose, il s'est rebondi, mais un peu, je dirais, rempli par de nouveaux fonds et avec des revendications nouvelles. C'est assez étonnant, c'est réjouissant de voir cela, mais quand même, le prix payé jusqu'à maintenant est très fort. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs centaines de morts, assez de balles réelles, et puis il y a 10 à 11 000 blessés. C'est rare d'avoir autant de victimes, de morts et de blessés à des balles réelles par un pouvoir qui se trouve ici, un pouvoir chiite contre une population chiite. Et hélas, la communauté internationale est assez silencieuse devant ce qui se passe en Irak.
Un tout dernier point, Oussam Daoud. Le grand ayatollah al-Sistani dit attention au gouffre des tueries. Pensez-vous que le pays, effectivement, l'Irak, est au bord de ce gouffre ?
Il est possible, parce qu'il y a une milice secondée par l'Iran. Ils sont dans leur position, ils ne veulent pas lâcher prise. Leur position qui est arrachée, noyautée à l'intérieur de l'État, au contournement de la loi et puis détournement de fonds, bien sûr, c'est par des milliards de dollars. Ils ne sont pas prêts. Deuxièmement, ce qui est nouveau dans ce mouvement, ces jeunes, ils ne croient plus dans la médiation des grands ayatollahs. Ça fait 4 fois, ayatollah Sistani, ils demandent de la modération et les jeunes, ils le sont chaque fois et chaque vendredi en nombre plus important. Donc, ils sont qu'ils n'ont plus besoin de médiation entre le ciel et la terre. Ils sont capables, ils voient la corruption, ils voient ceux qui sont incapables de gérer, ils voient que leur pays est à la dérive et ils demandent des réponses immédiates. Ça, c'est nouveau aussi. Et là, il faut le suivre et voir qu'est-ce qui se passe.
Merci à vous, Oussam Daoud, anthropologue depuis l'Irak. 15 soldats maliens tués aujourd'hui dans une attaque qualifiée de terroriste par les autorités. Attaque menée contre un poste militaire à Indeliman, dans la région de Menakam. Toutes vêtues de noir, plus d'un millier de Chiliennes ont défilé en silence dans les rues de Santiago, en hommage à celles et ceux qui sont tombés sous les balles des forces de l'ordre lors des 2 semaines de lutte contre l'injustice sociale. 20 morts et 1305 blessés, selon l'Institut national des droits humains. Grâce à des données satellitaires, la police brésilienne a identifié la compagnie maritime du tanker battant pavillon grec qui aurait déversé du brut à 700 km des côtes et provoqué une marée noire, des dégâts incommensurables sur plus de 2000 km de littoral. Anne Vigna nous appelle de Rio de Janeiro.
La police brésilienne est peut-être en train de trouver un responsable pour la plus importante catastrophe écologique sur les côtes du pays. Depuis le 30 août dernier, du pétrole arrive par vagues sur les plus belles plages du pays, polluant les estuaires et 14 réserves écologiques, capitales pour la faune marine. le gouvernement n'a pas déclenché le plan national contre les marées noires, laissant les habitants et les autorités locales nettoyant seuls cette catastrophe à quelques semaines de la saison touristique. L'enquête pour déterminer les responsables est également très critiquée depuis le début par les scientifiques qui estiment que les images satellites n'étaient pas mises à profit. Cela semble avoir changé cette semaine et abouti à une perquisition de la police fédérale ce vendredi à Rio de Janeiro. Des images satellites analysées par l'université de l'État de Bahia auraient permis de retrouver un tanker battant pavillon grec et qui aurait chargé du pétrole au Venezuela à la mi-juillet. La perquisition est le fruit d'un partenariat inédit entre la police fédérale et les scientifiques qui ont enquêté face à l'inaction des autorités.
La Cour suprême russe ordonne la liquidation du Mouvement pour les droits de l'homme, l'une des plus anciennes associations de protection des droits humains, classée par la justice agent de l'étranger depuis le mois de février. Le directeur de cette organisation entend faire appel de cette décision et saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le rapporteur des Nations unies pour la torture dit lui son inquiétude face à la détérioration continue de la santé de Julian Assange depuis son arrestation et sa détention au début de cette année. Nils Melzer affirme que la vie du fondateur de Wikileaks est désormais en danger. En France, la nouvelle équipe dirigeante de la SNCF ne saisira pas la justice sur le mouvement social des cheminots démarré le 18 octobre. Contrôleurs et conducteurs avaient alors décidé d'exercer un droit de retrait après un accident dans les Ardennes, dont un conducteur était le seul agent à bord du train. Il y a bien sûr ce que dit la loi en matière de droit de retrait, et puis un lourd climat social, appel à la grève reconductible contre la réforme des retraites le 5 décembre, et une grève en cours au Technicentre de Châtillon en région parisienne. Diane Berger.
Il faut revenir quelques semaines en arrière. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, des cheminots activent leur droit de retrait après un accident de TER qui a fait 11 blessés. Les salariés dénoncent des conditions de travail dangereuses quand un conducteur se trouve seul à bord du train. Le mouvement devient massif, le trafic très perturbé. C'est le premier grand symptôme de la crise sociale qui touche le ferroviaire cet automne. L'ancien chef de la SNCF, Guillaume Pepy, a qualifié le mouvement de grève surprise, inadmissible. Le Premier ministre Édouard Philippe dénonçait, lui, un détournement du droit individuel au retrait. Il évoquait de possibles sanctions judiciaire. Mais pour maître Étienne Collin, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit du travail, attaquer en justice les cheminots aurait été délicat sur plusieurs plans.
Un droit de retrait, qui est un droit individuel, peut être exercé collectivement. Il y a des exemples, il y a des précédents. Sanctionner des centaines de salariés, on ne sait pas exactement combien, mais de très nombreux, c'est extrêmement compliqué. Et puis là, je pense qu'il y a une considération largement politique qui dépasse la SNCF, parce qu'en plein débat sur les retraites, engager un bras de fer tel avec les organisations syndicales et les salariés de la SNCF et à travers eux tous ceux des transports publics paraissait difficilement envisageable en plein engagement de ce débat public.
Alors, selon le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, la SNCF ne poursuivra pas les cheminots, donc, mais les jours où le droit de retrait a été utilisé seront considérés comme des jours de grève. Ils ne seront donc pas rémunérés. Mais d'après maître Étienne Collin, ces retenues de salaire pourraient être contestées au prud'homme.
Rentrée scolaire normale lundi pour les élèves d'une école et d'un collège de Béziers, endommagés la nuit dernière par des incendies criminels. 300 élèves de maternelle et de primaire seront temporairement accueillis dans une maison de quartier réquisitionnée par la mairie. Le chef de l'État est invité à ouvrir et à déclassifier des archives des services de renseignement français concernant l'affaire Boulin, Robert Boulin, retrouvé mort dans un état de la forêt, dans un étang de la forêt de Rambouillet le 30 octobre 1979. Plusieurs journalistes qui ont travaillé sur ce dossier énumèrent dans une lettre adressée à Emmanuel Macron lacunes et incohérences et affirment qu'il s'agit, je cite, de la liquidation d'un ministre en exercice grossièrement maquillé en suicide. Fin de citation. Parmi les signataires de ce courrier, le journaliste d'investigation de Radio France, Benoît Colomba.
Ce qui fait l'originalité de notre démarche, c'est que nous sommes des journalistes et nous avons toutes et tous travaillé sur cette affaire depuis de nombreuses années. Certains depuis le début des années 80, où là il y avait une pression très très forte autour de cette affaire. Certains de nos confrères ont été même menacés physiquement pour avoir travaillé sur cette affaire. Donc c'est une façon de dire que cette affaire, elle traverse les âges, elle traverse notre époque depuis des années, comme une espèce de chape de plomb finalement. C'est un peu comme si une chape de plomb était sur cette affaire depuis des années, qui n'avance pas judiciairement. Et c'est le sens de cette tribune, c'est de dire qu'aujourd'hui, 40 ans après la mort de Robert Boulin, qui était un serviteur de la République, eh bien la France s'honorerait à mettre son poids dans la balance pour tout faire pour qu'on connaisse enfin la vérité sur la disparition de Robert Boulin. Tous les journalistes qui avons travaillé sur cette affaire, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais bien d'un assassinat.
Benoît Colomba avec Antoine Marette. Quelques mots de la météo du temps de demain. Un temps toujours très humide et souvent pluvieux sur la plupart des régions. Risque de vent violent près de la Manche. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto, à la technique Alex Dang.